La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Si les enquêtes d'opinion les plus sérieuses s'avèrent précieuses pour analyser le vote RN, elles ne suffisent pas à comprendre pourquoi une part de plus en plus importante des électeurs et des électrices choisissent l'extrême droite. Loin de chercher à établir un portrait robot type ou de proposer une galerie de portraits bien contrastés de ces électrices et électeurs, le politiste Félicien Faury en a longuement fréquenté, interrogé, afin de saisir les logiques sociales à l'œuvre dans leur vote. Une ressort tout particulièrement, le racisme qui traverse l'ensemble de la société française et qui nourrit le pouvoir que constitue encore pour ses électeurs et électrices le bulletin de vote. Félicien Faury est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et c'est une productrice de radio, une productrice de France Culture et plus particulièrement des Pieds sur Terre qui nous rejoindra en seconde partie d'émission, Valérie Borst, pour parler d'un récent épisode des Pieds sur Terre consacré au 21 avril, 22 ans après, comme pour mesurer au fond la distance qui nous sépare de cette date et cette période qu'on pourrait appeler celle, en mettant des guillemets, de la normalisation de l'extrême droite. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite, c'est le sous-titre de votre livre, Félicien Faury, des électeurs ordinaires, qui paraît aux éditions du Seuil. Vous êtes sociologue et politiste, vous êtes chercheur postdoctoral au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Alors ce livre est le fruit d'une thèse, mais c'est un véritable livre, fruit d'une enquête, surtout une enquête que vous avez menée dans un territoire relativement circonscrit, du sud, du sud-est, même plus précisément de la France, dans cette région qu'on appelle Sud PACA. Et c'est pas tout à fait un hasard, c'est une région dans laquelle le Front National puis le Rassemblement National s'est implanté de longue date, et région dans laquelle il détient de nombreux élus et évidemment a beaucoup d'électeurs. Comme je le disais en commençant cette émission, il ne s'agit pas de sociologie électorale au sens de l'analyse du vote. Il y a eu beaucoup de travaux consacrés au vote Front National, puis Rassemblement National, ils sont précieux. Mais vous avez décidé, non pas simplement de mener des entretiens avec des gens que vous auriez juste rencontrés une fois pour ce faire, mais bien de vous installer sur place, dans le Sud, pour apprendre à connaître un certain nombre de gens, apprendre à trouver, du coup, des gens qui, une fois dans leur vie ou plusieurs fois dans leur vie, avait voté pour l'extrême droite. Qu'est-ce qui a motivé cette méthode d'enquête ?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Le geste fondateur, je dirais, de cette enquête, c'est effectivement de s'intéresser à la normalisation politique du RN, mais non pas en étudiant les mutations du champ politique, les mutations du champ médiatique, les représentants, les porte-paroles officiels, ce qui est très important. Hein, mais
on a consacré une émission il y a peu de semaines à cette question-là.
Exactement. Moi, l'idée là pour cet ouvrage, c'était d'essayer de comprendre comment la normalisation politique du RN, elle était tributaire d'une normalisation sociale en fait. C'est-à-dire un peu l'idée, c'était d'étudier l'extrême droite par le bas, en allant effectivement en se situant au plus près des expériences concrètes de vie de ces électeurs et électrices donc ordinaires qui, à un moment donné de leur existence, en viennent à déposer un bulletin RN dans l'urne. Et donc effectivement, il fallait aller y habiter. Et donc mon lieu de recherche a été aussi mon lieu de vie pendant un certain nombre d'années.
C'est une manière de dire au fond que la science politique, ça n'existe pas vraiment. En revanche, ce qui existe, c'est la sociologie politique. Que le politique, on ne le comprend que quand on le replace dans un contexte social beaucoup plus large. Que le politique, pour la plupart des gens, et pas seulement pour ses électeurs du Front National, c'est pas quelque chose de nécessairement très important, mais qui peut l'être à certains moments. Et en tous les cas, qu'on ne peut saisir que si on considère le politique comme l'une des activités sociales qui s'articule à ces activités sociales.
Oui, absolument. Je pense que l'objet du vote, c'est très intéressant pour saisir tout un ensemble de phénomènes sociaux. C'est un bon condensé, en fait. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, pour la plupart des gens, en réalité, c'est un geste assez anodin et qui surtout n'a rien d'irréversible, si vous voulez. Vous pouvez voter pour le RN, puis ensuite, par exemple, changer d'avis, si votre condition sociale change. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de comprendre, c'est les conditions sociales dans lesquelles se retrouvent ces électeurs et ces électrices, et comment ça les fait pencher, en quelque sorte, vers l'extrême droite.
On est loin d'électeurs stratèges, ou d'électeurs qui se rappellent parfaitement toute leur histoire de vote. On peut oublier pour qui on a voté il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Même des intellectuels l'oublient. En règle générale, des gens qui font très attention à la politique l'oublient, donc on imagine que des gens pour qui la politique est...
Oui, c'est une grande leçon des sciences politiques, c'est que ce qui intéresse beaucoup les politistes, en fait, n'intéresse que très peu, en fait, la majorité de la population, c'est-à-dire les questions strictement politiques. Et ça, effectivement, dans les entretiens, mais même la manière dont j'ai essayé de construire le livre, c'était toujours de partir du social, c'est-à-dire les conditions matérielles et symboliques d'existence et la manière dont les individus s'y rapportent subjectivement pour arriver ensuite aux politiques comme expression, en fait, de ces conditions sociales.
Ça ne veut pas dire que le vote n'est pas quelque chose d'important, parce que même pour ces gens, ça reste au fond le dernier pouvoir dont ils disposent. Mais ça, on va y revenir en faisant un détour, en prenant le temps de le faire, par votre travail d'enquête. Je le disais, vous êtes installé sur place, vous y êtes allé à plusieurs reprises pour des périodes relativement longues, et vous avez sociabilisé avec tout un tas de gens dans des associations, dans des lieux publics. C'est comme ça que peu à peu, vous avez constitué au fond un groupe de personnes que vous avez pu identifier comme des personnes ayant à un moment ou un autre voté pour l'extrême droite, qui vous intéressaient plus particulièrement et avec lesquelles vous avez eu non pas des entretiens au sens formel, sociologique toujours, mais même vous parlez de conversations, et de conversations qui pouvaient prendre un tour très personnel, en fait.
Oui, effectivement, c'est les différentes personnes, personnages que l'on croise dans ce livre, ils sont pas représentatifs au sens statistique, parce que justement, ce qui est nécessaire dans l'enquête de terrain, c'est de recomposer justement ce qui compte pour les individus. C'est-à-dire, voilà, et donc en fait, quand on est sociologue du vote, on travaille au fond sur des groupes familiaux, sur des groupes associatifs, des groupes professionnels. Et c'est ce type de logique affinitaire que j'ai voulu reconstituer avec effectivement parfois des paroles qui sont très intimes. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est à la fois au fond un sens commun un peu spontané, c'est-à-dire ce qui vient en premier lorsque les gens doivent justifier leur vote, mais aussi des conversations plus intimes, et je pense que le vote exprime ça aussi, en fait, des nœuds assez existentiels qui sont révélés le temps d'une élection.
Alors, il y a de nombreux facteurs sociaux qui permettent d'expliquer le vote Rassemblement National, des déterminants sociaux du vote, comme on dit. En général, quand on fait des enquêtes statistiques, on distingue l'âge, le genre, la position sociale, exprimée en catégorie professionnelle et sociale, par exemple, diverses choses. Vous avez travaillé de façon plus fine, au fond, en essayant de mettre à jour des logiques sociales qui ne concernent pas que ces personnes, qui sont les logiques qui structurent la société française. Et l'un des apports, je pense, très important de votre enquête, c'est qu'elle permet de ne pas singulariser ces électeurs du Rassemblement National. Elle fait le pari que c'est en les replaçant au sein de la société française qu'on peut comprendre leur geste électoral.
Ouais, tout à fait. C'est effectivement un point important qui est de pas exceptionnaliser l'extrême droite, et de comprendre toujours ce vote extrême en rapport à la norme, en fait, et en rapport à tout un ensemble de normes sociales qui sont partagées, en fait, et qui sont parfois mises en tension ou qui sont rendues explicites. Et cette mise en tension des normes, c'est ça qui peut donner lieu à un vote RN. Mais effectivement, l'idée de se dire, en fait, ces électeurs, ces électrices, ils font aussi partie de notre monde social, et ce qui m'importait, mais bon, ce qui est en fait le postulat de base de la sociologie, me semble-t-il, c'est expliquer des comportements individuels, des visions du monde individuelles, en les ralliant à des logiques collectives et toujours collectives auxquelles nous participons tous et toutes d'une certaine manière.
D'ailleurs, vous prétendez pas, au fond, faire un portrait de chacun d'entre eux avec toutes ses facettes. C'est une mission impossible. En fait, ce qui vous intéresse, c'est plutôt de prélever chez eux la manière dont la société vient les traverser.
Ça, effectivement, à un moment, je note, je crois, ce qui m'intéresse, c'est pas les individus, au fond. Ce qui m'intéresse, ce sont des rapports sociaux, ce sont des configurations sociales. Et au fond, un individu, il est changeant, il est complexe, il est ambivalent, et ce serait un peu présomptueux aussi de vouloir le résumer à partir de même d'une enquête approfondie. Et par contre, ce qui m'intéressait, c'est justement qu'est-ce qui est activé dans ce vote-là et quelles sont les logiques communes qui peuvent expliquer ce comportement électoral. Et donc, c'est des rapports sociaux plus que des individus qui m'intéressaient, effectivement.
Alors qu'on ne se méprenne pas, Félicien Faury, quand vous dites il ne s'agit pas d'exceptionnaliser les électeurs du Rassemblement national, ça ne veut pas dire, comme on l'entend parfois dans certains discours politiques, attention, il ne faut pas prendre les électeurs nationaux, il ne faut pas les fâcher, il ne faut pas dire certaines choses d'eux. Vous n'avez pas peur de dire certaines choses qui sont des évidences et l'éléphant au milieu de la pièce, l'éléphant au milieu de votre livre, c'est le racisme. Ce qui caractérise avant tout les électeurs du Rassemblement national, c'est le rapport qu'ils ont au racisme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Vous n'avez pas mis au point un dispositif, une prise de sang qui permettrait de savoir si ces gens sont racistes ou pas. Ça n'a aucun sens, en fait. L'idée de savoir s'ils sont un peu, beaucoup, pas du tout racistes n'a aucun sens. En revanche, ce sont des citoyens français qui vivent dans la société française et qui... sont traversés par le racisme, qui est une réalité sociale de cette société. Simplement, à la différence d'autres citoyens, peut-être, ils en font quelque chose, et notamment, ils transforment le fait d'être traversé par le racisme en un bulletin de vote.
Tout à fait, c'est très bien résumé, et j'ai pris garde en fait à ne jamais écrire par exemple que ces individus sont racistes et arrêter de se demander au fond s'ils le sont plus ou moins, à quel degré, etc., pour s'intéresser aux formes prises par le racisme et à ces activations électorales. Et effectivement, ce sont des personnes qui sont traversées par des affects racistes, qui, à un moment donné de leur existence, se retrouvent activées socialement, par le contexte social dans lequel ils sont, et également activées politiquement, ce qui donne lieu à ce vote. Et effectivement, un des points importants du livre, c'est de regarder avec lucidité le fait que le vote RN continue d'être structuré par des affects racistes, qui... il y a tout un ensemble de travaux, y compris aussi de travaux de sciences sociales, qui ont beaucoup insisté de façon ancienne, mais aussi plus récente, sur les inégalités de classe qui sont subies par ces électeurs du RN. Et ça, c'est quelque chose de très important, et j'en parle beaucoup dans le livre. Mais il me semble qu'on ne comprend qu'à moitié le phénomène lepéniste si, en mettant en avant la question de la domination de la classe, on en vient à euphémiser, voire à complètement retirer de l'analyse cette question du racisme, en fait. Et donc, il faut une logique d'articulation, me semble-t-il, des formes du racisme et des expériences de classe.
On peut aller plus loin si on prend d'autres déterminants du vote. Je parlais tout à l'heure du genre. On peut parler de l'orientation sexuelle. On peut observer la façon dont ce parti a évolué ces dernières années. Évidemment, dirigé par une femme depuis assez longtemps maintenant. Ce parti a réussi à progresser dans la catégorie femme. Il n'y était pas bien installé au début. Ce parti s'est éloigné en grande part de l'homophobie qui pouvait le caractériser à certains égards, comme si au fond la dernière variable qui restait c'était celle de la race.
Oui, et en tout cas je pense qu'il faut toujours articuler par exemple sur la question du vote féminin. Ce que j'essaye de montrer, c'est que donc ces électeurs qui sont dans le sud-est de la France, ils ont tendanciellement, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas fragiles sur le terrain de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas en danger, par exemple, de
Ils ne sont pas chômeurs.
Exactement.
Ils sont pas vraiment précaires. Ils sont dans une relative fragilité économique, mais pas d'emploi.
Voilà, et c'est pas la question de l'emploi qui va les préoccuper économiquement prioritairement, et par contre, il va y avoir tout un ensemble d'autres préoccupations économiques qui sont très importantes, en fait, et qui reviennent beaucoup dans les entretiens, et qui vont moins concerner du coup les rapports de production que les rapports de redistribution ou de reproduction, donc la question des impôts, des aides sociales, et par exemple aussi la question de l'école, qui suscite de très vives inquiétudes, et ça, je fais l'hypothèse que c'est aussi une des manières de comprendre, c'est pas la seule, hein, mais de comprendre le vote féminin pour le Rassemblement National, c'est qu'on a une mise en concurrence et une dégradation de l'offre scolaire, y compris publique, qui est très vivement ressentie comme telle par les électeurs et surtout par les électrices, qui sont encore dans nos sociétés les personnes qui sont encore les plus attentives à ça. Et c'est aussi peut-être une des ces inquiétudes reproductives, comme je les appelle, c'est aussi ça qui peut amener tout un ensemble de l'électorat féminin à se mettre maintenant à voter pour ce parti.
Dans une situation où le déterminant social du vote pour l'extrême droite le plus puissant depuis toujours, c'est le niveau de diplôme.
Exactement, le niveau de diplôme, plus encore que le niveau de revenu. Et ça, c'est un point aussi que je retrouve dans mon enquête, c'est que derrière ce résultat statistique très stable dans le temps, qui est le niveau de diplôme comme variable la plus prédictive du vote RN, ce qu'on retrouve, et c'est un peu l'intérêt des entretiens, c'est que ce qu'on retrouve, c'est des trajectoires sociales qui sont vécues difficilement, qui sont courtes, mais qui sont surtout souvent heurtées. Et avec un rapport défiant, en fait, à l'ordre scolaire et à la culture dite légitime qui se met en place. Et qu'en fait, on va retrouver, bien après la scolarité, dans la manière notamment dont les personnes que j'ai pu rencontrer vont juger les élites politiques, mais aussi les élites culturelles, intellectuelles, médiatiques, artistiques, et tout particulièrement la gauche, qui en fait devient le camp des beaux parleurs et des donneurs de leçons, en quelque sorte. Et donc, il y a une forme de mépris de classe qui est ressentie, mais classe presque dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que je pense.
Scolaire et social.
Exactement. Et je pense que c'est très important de voir que pour beaucoup de ces électeurs électrices, la domination de classe est aussi vécue comme une sorte de vestige de la domination scolaire. Et donc, voilà, il faut un peu s'interroger sur ce que crée l'école comme humiliation, parfois frustration, ressentiment, et quels affects politiques ça va sécréter plus tard.
Alors la manière dont ça s'articule avec le racisme, parce que le racisme c'est pas un domaine à part, séparé, c'est pas une dimension idéologique qu'on pourrait distinguer, c'est quelque chose qui s'articule toujours avec l'école, avec les services publics, avec l'emploi, avec la propriété, avec la présence de touristes, avec différentes choses sur lesquelles on va peut-être revenir. Et cette articulation fine, en fait, permet de comprendre pourquoi le racisme est au fondement de ce vote, parce que c'est une manière pour ces électeurs et ces électrices d'user de leur pouvoir, de dire qu'ils font partie, en dépit de toutes les dominations dont ils sont l'objet, ils font partie de la majorité.
Oui, absolument, du groupe majoritaire, pour parler
groupe comme majoritaire du pays.
C'est ça, pour parler comme Colette Guillaumin. Effectivement, ça c'est un point important, qui est que le vote RN, il est souvent présenté comme un vote anti-système, protestataire, ce qu'il est d'un certain point de vue, mais c'est aussi un vote conservateur et qui s'exprime, eh bien voilà, comme je l'ai un peu dit, depuis la norme, mais depuis une norme qui est vécue comme fragile. Et donc, effectivement, c'est aussi un vote d'intégration, pour se dire français, pour se dire comme faisant partie du groupe majoritaire. Et c'est cette forme d'intégration par le vote qui m'a beaucoup intéressé.
Alors, je parlais tout à l'heure du racisme comme de l'éléphant dans la pièce, mais à l'intérieur de l'éléphant, si j'ose dire, le petit éléphant à l'intérieur de l'éléphant, c'est l'islamophobie. Vous y consacrez un chapitre entier, parce que c'est une forme de racisme qui joue un rôle très très important.
Oui, c'était assez très présent, en tout cas dans les entretiens. Ce qui est particulièrement intéressant de noter, c'est que les électeurs du RN, dans leur majorité, ne sont pas des catholiques pratiquants. En fait, c'est des personnes qui ont une culture catholique ou voilà une socialisation culturelle chrétienne, on va dire. Et en fait, spontanément, le référent religieux est très peu utilisé en fait pour se définir. Sauf lorsque la question de l'islam émerge. Et là, en fait, on va se dire en fait chrétien ou catholique, par exemple. On va manifester ce référent religieux-là par différence et hostilité souvent vis-à-vis des populations musulmanes. Et en fait, derrière les populations musulmanes, souvent les minorités ethno-raciales de manière plus large. Parce que souvent, le religieux, c'est aussi une manière de dire le racial, peut-être de façon plus légitime.
Ça permet de comprendre, au fond, peut-être cette période de la normalisation, entre guillemets, de l'extrême droite qui, bon, s'il faut une borne de début, on peut dire 21 avril, mais en fait, le 21 avril n'a été possible que parce que cela avait, à certains égards, déjà commencé. Au fond, cela est rendu possible parce que, à côté de ces électeurs du Rassemblement National, il y a un espace public, il y a une société française qui, comme on le disait, est traversée par un racisme systémique et dans laquelle l'agenda politique, l'agenda médiatique est de plus en plus occupé par ces questions de l'islamophobie, par des formes d'affirmation des principes républicains qui produisent des formes de stigmatisation, en fait, dans lesquelles se reconnaissent ces électeurs qui peuvent avoir le sentiment d'appartenir à cette majorité du pays en se reconnaissant dans ce discours. Tout ça pour dire qu'au fond, si ce vote monte au fil des années, c'est aussi en grande partie du fait de ceux qui ne sont pas les électeurs du Rassemblement National, Félicien Faury.
Oui, le Marine Le Pen et avant elle Jean-Marie Le Pen, le lepénisme fait une promesse à ses électeurs qui est d'arrimer aux affects racistes qui les traversent, pas seulement, mais tout de même, c'est une grande partie du problème, d'arrimer aux affects racistes qui les traversent des conditions matérielles et symboliques et de reconnaissance qui leur seront davantage favorables. Et cette promesse, dans le contexte effectivement politique et idéologique qui est le nôtre, ben ils peuvent être d'autant plus tentés de le croire en fait. C'est que le racisme devient effectivement par d'autres formes en fait, par les formes du national, par la forme du religieux, devient quelque chose qui peut être valorisé et qui en tout cas est normalisé en fait, en prenant parfois un autre langage, mais est normalisé. C'est cette normalisation effectivement qu'on retrouve, y compris dans l'espace local et dans les interactions quotidiennes, c'est cette normalisation-là qu'il faut interroger.
Alors vous avez structuré votre livre autour de différentes questions, je disais l'islamophobie en est une, mais avant ça vous vous intéressez, vous en avez dit quelques mots, à cette situation économique incertaine et fragile de ces électeurs, et vous les inscrivez aussi dans un territoire particulier qui est celui du Sud-Est, avec une propriété foncière qui évolue, une présence du tourisme assez fort, et même la percée d'une économie de l'enrichissement, pour reprendre l'expression d'Arnaud Esquerri et Luc Boltanski.
Oui, tout à fait. C'est vrai que il me semble que dans les imaginaires actuels, lorsqu'on pense au RN, on pense avant tout à la France des oubliés, aux territoires délaissés, à la France périphérique, à les campagnes en déclin, pour reprendre l'expression de Benoît Coquart, qui a beaucoup travaillé plutôt sur le Nord. Mais on oublie souvent le Sud-Est, en fait, qui est un grand bastion de l'extrême droite et qui, cette fois, c'est pas des territoires délaissés. Ce sont des territoires qui sont convoités. Et le problème, c'est moins le sentiment d'abandon ici que les inégalités très importantes en région Sud-PACA, dans laquelle j'ai mené mon enquête, et qui sont des inégalités qui s'inscrivent notamment dans les territoires, avec ce que Thomas Piketty nomme une classe patrimoniale qui va justement s'approprier tout un ensemble de territoires avec des personnes qui vont acheter des résidences secondaires, des grandes demeures, des belles villas, etc. Ce qui va effectivement créer une pression sur l'immobilier qui est très importante. Et en fait, vous avez du coup des électeurs qui ont l'impression, pour reprendre leur expression, que les quartiers les rattrapent, donc qui font référence plutôt aux cités en voie d'appauvrissement. Et de l'autre côté, les coins sympas, les coins tranquilles, comme on les appelle, ils deviennent inaccessibles à cause de cette migration prospère, cette fois, qui va créer une sorte de plafond de verre, en fait, qui va créer en fait une forme d'immobilisme résidentiel contraint, ce qui crée un très profond pessimisme territorial, pessimisme résidentiel qui est très frappant dans les entretiens. Et là, c'est pareil, on insiste souvent sur la question du déclassement, mais moi ce que je repère beaucoup, c'est que le déclassement qui est vécu par ces électeurs et ces électrices, c'est un déclassement collectif. C'est sa région, sa ville, sa rue parfois, qui est vécu comme en déclin.
Vous citiez Thomas Piketty pour ses travaux plutôt sur le logement. En revanche, vous êtes assez critique à l'endroit des travaux plus récents qu'il a co-signés avec Julia Cagé et qui s'intéressent à la politique. Mais en faisant de la dimension identitaire ou de la dimension idéologique quelque chose de séparé, ce qui, pour un politiste, pour un sociologue de la politique, n'a pas grand sens.
Oui, et puis c'est vrai que ce travail qui est magistral par ailleurs, mais qu'il est assez représentatif de cette tendance à vouloir mettre en avant les dimensions de classe, ce qui, encore une fois, je trouve ça très salutaire dans le contexte actuel, même le contexte scientifique, mais qui, du coup, vont évacuer, et sans vraiment le pouvoir scientifiquement, enfin, il y a des discussions techniques, mais ils se placent au niveau de la commune et non pas au niveau des motivations individuelles des électeurs. Et donc, ils vont évacuer cette dimension xénophobe ou islamophobe, ce qui effectivement pour moi n'a guère de sens, parce que pour comprendre pleinement le vote RN, il faut articuler ces différentes dimensions.
Vous critiquez là donc une approche scientifique, mais cette approche on la retrouve aussi dans le discours politique parfois, et notamment à propos du vote RN du nord de la France. Alors vous n'avez pas travaillé sur le nord de la France, néanmoins vous connaissez les caractéristiques de ce vote à bien des égards. Le discours politique dont je parlais, c'est par exemple celui de François Ruffin, qui est sur ces territoires. Et on a souvent entendu cette expression les fâcheux, pas fachos, pour désigner ces pauvres électeurs RN qui seraient un peu en déshérence et qui s'agirait surtout de pas froisser, de pas brusquer en rappelant qu'ils peuvent être racistes, par exemple. Faut pas le dire. Vous faites le contraire. Vous dites faut voir la réalité des choses, mais il n'y a pas qu'eux qui sont racistes. Ils vivent dans une société qui l'est. Et donc, pourquoi ils ne le seraient pas? La différence, c'est qu'ils font quelque chose politiquement de ça.
Oui, il y a une phrase de Fanon, France Fanon, que j'aime beaucoup, qui dit « Une société est raciste ou elle ne l'est pas ». Et d'ailleurs, je crois qu'il continue en disant « Il n'y a pas grand sens de se demander si le Sud ou le Nord sont plus ou moins racistes ». En fait, je pense qu'on a intérêt à comprendre le fait social raciste comme un fait social transversal, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux, qu'on retrouve dans les milieux bourgeois, dans les milieux de petite classe moyenne que j'ai plutôt étudié, mais aussi dans les milieux de classe populaire. Et donc peut-être qu'il y a un effet sud-est, si on veut, de mon terrain, mais je vois pas pourquoi les classes populaires blanches seraient immunisées contre, effectivement, ce qui constitue une structure de pouvoir qui traverse la société en son entier.
On trouve des livres racistes publiés sous la couverture blanche des éditions Gallimard, ceux de Richard Millet, par exemple, mais il y en a d'autres.
Oui, et puis on n'a qu'à penser au vote Éric Zemmour dans les quartiers bourgeois, mais même il y a des formes de racisme qu'on peut trouver aussi à gauche, au sein de la bourgeoisie intellectuelle, par exemple. Donc moi, c'est vraiment cette question-là, c'est approcher le racisme par ses formes, et du coup, ça implique de se dire que le vote RN, c'est une modalité parmi d'autres d'expression du racisme et de participation à la persévérance des inégalités ethno-raciales. Mais c'est une modalité parmi d'autres et non la seule. Et ce que j'essaie de décrire, c'est justement les contours de ces formes de racisme.
Votre enquête, Félicien Faury, est extraordinairement riche. Le livre n'est pas très épais, mais il est d'une densité incroyable. On ne peut pas tout résumer en une émission, mais il y a une dimension sur laquelle j'aimerais qu'on vienne aussi et qui fait l'objet du dernier chapitre de votre livre, parce qu'on explique souvent le vote pour l'extrême droite du fait d'une certaine relation à la politique professionnelle. Vous avez tendance à nuancer un peu cette détermination-là, en disant au fond, les électeurs RN, finalement, quand ils sont les électeurs ou les citoyens de lieux qui sont gouvernés depuis un certain temps par le RN, non plus cette dimension critique, par exemple.
En fait, c'est un point même plus général qui n'est pas seulement propre à mon terrain. C'est l'idée de voir le vote RN comme un vote de colère qui serait purement dégagiste, par exemple. Il me semble que, en fait, il y a tout un ensemble, par exemple, d'États, de pays où, en fait, anti-système, oui et non, parce que quand le système leur plaît, en fait, les électeurs continuent à voter pour ces partis. Et en fait, même plus proche de nous, il y a qu'à voir les mairies RN. En fait, la majorité des mairies RN ont été reconduites de 2014 à 2020. Et donc, en fait, ça peut être, si le RN satisfait certains intérêts de certains électeurs, de certains segments électoraux, il parvient à solidifier ces segments électoraux. Et sur le vote de colère, pareil, c'est vrai en fait que le vote RN est un vote de colère, mais ça m'a toujours semblé incomplet, parce que c'est jamais une colère qui est sans objet en fait. Faut se demander un vote de colère, mais à l'encontre de qui, de quel groupe. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a notamment les minorités ethno-raciales, mais aussi les élites politiques, les groupes dominants et notamment certaines fractions des groupes dominants.
Tout à l'heure, vous disiez, Félicien Faury, que vous ne vous inscrivez pas dans l'ensemble des travaux qui ont cherché à penser la normalisation, entre guillemets, de l'extrême droite comme le fait de des transformations du débat public, de l'offre politique, comme on dit. Néanmoins, il n'y a pas du tout à choisir entre les deux. Et au fond, on voit bien comment votre travail peut s'articuler avec des approches qui s'intéressent à l'agenda politique, par exemple, parce que on ne peut comprendre la manière dont le racisme joue un rôle dans le vote RN de ses électeurs, qu'en les replaçant dans une société, donc qui est aussi une société médiatique, dans laquelle l'ensemble de la population est exposée à un certain type de messages, qu'ils viennent des discours politiques d'autres partis que le Rassemblement national, ou de commentateurs, d'éditorialistes, ou de chaînes télévisées en particulier, et ça c'est un phénomène plus récent, qui sont plus marqués qu'auparavant à l'extrême droite.
Oui, c'est tout à fait une approche qui est complémentaire. Il me semblait que, par contre, il y a beaucoup de travaux sur justement ces mutations du haut, en quelque sorte, qui, encore une fois, sont très importantes à étudier. Et on manque, pour l'instant, il me semble-t-il, d'éléments sur les conditions matérielles concrètes et les visions du monde, mais qui se jouent justement dans l'ordinaire de ces électeurs. Donc
Mais c'est ce qui permet, au fond, de comprendre pourquoi deux personnes dans des statuts, des positions sociales différentes, en fait, exposées au même type de discours, ne vont pas faire la même chose de leur bulletin de vote.
Oui, évidemment, il faut comprendre le monde social dans lequel sont situés les individus. C'est quelque chose que tous les travaux de sociologie de la réception ont très bien montré. C'est qu'en fait, on reçoit les messages médiatiques aussi en fonction de qui on est socialement. Et ça, c'est très important à prendre en compte.
On revient sur le tout début de cette période, si l'on veut, avec Valérie Borst, qui a produit il y a quelques jours, en fait, il a été diffusé il y a quelques jours sur l'antenne de France Culture, un documentaire sur le 21 avril, 22 ans après. Elle nous rejoint donc en seconde partie d'émission. C'est après un extrait du nouvel album de Françoise Breu, un clin d'œil aussi à ce qui s'est passé dans les rues de Londres cette semaine avec deux chevaux, Cavale Animal.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Ils sont entrés dans la ville, déserte cette nuit-là, le bruit de leurs sabots sur les pavés résonnait, on aurait dit qu'au ralenti, ils se déplaçaient, que voulaient-ils voir de la ville, le monde semblait la fin désertée. Des lièvres couraient sur le velours, des routes suspendues dans l'air se frôlaient leurs fourrures. Les feuillages secs et les buissons assoiffés bruissaient dans un tintement, offraient une musique étrange. Plus rien ne pourrait les effrayer. De poissons rouges et blancs, pas le gymnote ruisselant,
parle des électeurs du Rassemblement National aujourd'hui à la suite dans les idées. On en parle donc avec Félicien Faury, l'auteur de ce livre important, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite qui paraît au seuil. Et on en parle avec vous, Valérie Borst. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice à France Culture et vous avez signé un épisode des Pieds sur Terre diffusé il y a quelques jours, pour lequel d'ailleurs Sonia Kronlund rappelait à juste titre que cette émission, Les Pieds sur Terre, était née au fond de ce choc même du vote du 21 avril. Vous avez réalisé cet épisode, sur ce jour, vu 22 ans plus tard. Ceux qui l'ont vécu, qui étaient suffisamment âgés pour s'en rappeler, ce qui est sans doute pas le cas de Félicien Faury, en ont gardé un souvenir extraordinairement précis, en fait, Valérie Borst.
C'est exactement ça. Moi, j'ai été marquée par la précision des souvenirs. C'est-à-dire que pour recueillir la parole dans Les Pieds sur Terre, souvent, on aide un petit peu les gens à amorcer l'histoire pour les aider à se remettre dans la situation. Là, les personnes, tout de suite, 21 avril 2002, se souvenaient où ils se trouvaient, avec qui, ce qu'ils ont ressenti. Les images revenaient tout de suite.
Et donc ça marque le début de quelque chose, parce que ce qui est terrible quand on entend ces paroles aujourd'hui, les paroles de l'époque, de 2002, en fait, on entend des gens qui nous expliquent que voilà, c'est un accident, en fait. C'est un accident, on s'y attendait pas. Alors certains s'y attendaient plus que d'autres, mais c'est un accident et maintenant, on peut compter sur eux pour que ça ne se reproduise pas.
C'est ça. Autant en première partie, vous avez parlé beaucoup de normalisation et voire de banalisation du RN. Là, on est vraiment dans la sidération. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un candidat de l'extrême droite se qualifie pour le second tour des présidentielles sous la Ve République. C'est le choc, c'est une catastrophe naturelle. Les gens sont émus, les gens pleurent, les gens n'y croient pas. Le travail de l'épisode des Pieds sur Terre, c'est un mélange de son d'aujourd'hui et des archives de l'INA. On entend des gens qui apprennent la nouvelle, qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une blague, qui sont choqués. On parle de peur, ils sont terrifiés.
Ils sont en colère aussi, parce qu'on entend 17% de connards, par exemple.
Oui, il y a un mélange, effectivement. Il y a un mélange avant tout de sidération. C'est vraiment le choc. Les gens parlent même d'un silence, voire de cris qui transpercent tout. Et ensuite, il y a la colère de « non, c'est pas possible, pas en France ». Et la colère donne lieu aux manifestations, aux mobilisations évidentes qui ont suivi.
Félicien Faury, vous aviez quel âge? Vous avez un souvenir de cet événement?
J'ai presque aucun souvenir, non, de cet événement. C'est pour ça que j'ai été assez touché, en fait, et parfois effectivement assez étonné quand j'ai écouté ce beau reportage sonore. On se rend compte, en fait, il y a une forme d'anti-lepénisme presque spontané, en fait, en tout cas suffisamment intériorisé pour qu'il se manifeste très rapidement, donc dès l'annonce des résultats.
Mais ça relève de l'archéologie pour un jeune chercheur comme vous.
Oui, c'est ça, la première phrase de mon livre, c'est « on s'y habituerait presque ». Et je tenais au presque pour pas montrer que c'est un processus immuable. Mais par contre, c'était quand même pour insister sur effectivement cet effet d'habituation. C'est-à-dire que depuis ce fameux 21 avril, on est complètement habitué à, me semble-t-il, la possibilité, en tout cas d'un second tour, voire d'une victoire du Rassemblement National. Et ça, je pense que ça a des grands effets, en fait, sur les imaginaires politiques de tout un chacun et sur du coup les conséquences électorales que ça peut produire.
Valérie Borst, les gens que vous avez rencontrés, vous, et que vous avez, dont vous avez mis en regard les paroles avec celles des archives de l'INA, c'est des gens qui avaient quels âges, en fait, aujourd'hui et donc à l'époque aussi?
Eh bien, il y a eu plusieurs profils. Donc, on avait des personnes qui, aujourd'hui, ont la quarantaine un peu passée, donc qui, à l'époque, avaient 25 ans à peine. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui fêtait fraîchement ses 80 ans. Et c'était aussi ça qui était intéressant. C'était de voir les différentes générations, mais qui ont été marquées tout autant.
Alors, ce qui est frappant, c'est que les gens ont été marqués à titre individuel, mais en revanche, on n'a pas le sentiment que véritablement cet événement, comme ça peut être le cas parfois, ait produit une génération. Il n'y a pas une génération 21 avril de gens qui auraient été, par exemple, jeunes à l'époque, étudiants, et pour lesquels cet événement aurait déterminé en partie un certain rapport à la politique en particulier.
C'est vrai que je n'ai pas remarqué spécialement ça. Ça a donné lieu, par contre, à une expression. Les personnes que j'ai rencontrées ne précisent pas le 21 avril 2002. C'est devenu une expression. C'est le 21 avril, il n'y a qu'une seule date. C'est ce jour-là. C'est un événement politique fort, marquant, terrifiant.
Est-ce que, Félicien Faury, en revanche, on peut trouver le pendant du côté de ceux qui ont fait la fête le 21 avril parce que leur candidat arrivait pour la première fois au second tour, Jean-Marie Le Pen? Et est-ce qu'on peut, alors je sais que vous avez travaillé plutôt sur les électeurs, pas sur les militants, mais j'imagine que vous connaissez aussi la littérature de recherche sur ce sujet, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une génération 21 avril du côté du Front National?
Alors, effectivement, mon livre ne porte pas vraiment là-dessus, mais ce qui semble apparaître, en tout cas dans les recherches qui ont porté sur l'effet justement de ce premier accès au second tour, c'est un peu en fait presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu le 21 avril, mais ensuite les manifestations monstres qui ont suivi étaient aussi le signe que la normalisation était loin d'être achevée, si je puis dire. Et en fait, bon, il y a différents travaux qui soulignent le fait que, en fait, ça a été aussi un traumatisme pour les militants RN, l'après premier tour, et de voir à quel point la société, ou en tout cas certaines fractions de la société, pouvaient se mobiliser en nombre pour dire que cela n'était pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et en fait, je pense que l'optimisme des militants en fait a commencé beaucoup plus à partir des années 2010, quand à la fois les succès augmentaient du RN, mais aussi qu'il y avait de moins en moins de contre-mobilisation en face.
C'est-à-dire qu'il y a eu un contre-coup à l'extrême droite après le 21 avril, du fait de, c'est vrai, ces manifestations ont été massives.
Ouais, absolument. Et il y a eu l'idée que justement, que peut-être ce n'était qu'un accident. Donc ils ont été détrompés depuis, mais il y avait effectivement ce contre-coup et cette prise de conscience d'à quel point l'extrême droite restait d'extrême droite pour une partie très importante des citoyens français.
Valérie Borst, vous avez produit cet épisode des Pieds sur Terre sur le 21 avril, mais par ailleurs, il vous arrive de travailler aussi sur des sujets politiques, et notamment, vous en avez consacré aux Gilets jaunes. Est-ce que vous avez rencontré, à l'époque, des gens dont les profils ressemblent un peu à ceux qu'évoquait Félicien Faury dans la première partie de l'émission et qu'on retrouve dans son livre ?
Alors, ce qui est intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que quand il a commencé, on ne savait pas par quel biais le prendre. C'est-à-dire qu'on arrivait en manifestation et on se retrouvait à parler avec un ouvrier, avec un cadre dirigeant, avec un retraité, avec quelqu'un qui n'avait jamais voté et qui là se retrouve en manifestation parce que ce n'est plus possible.
C'est beaucoup moins homogène qu'une manifestation classique organisée par les syndicats, par exemple.
Pardon ?
C'était beaucoup moins homogène que dans une manifestation classique organisée par les syndicats.
Ah oui, c'est ça. On pouvait être surpris par n'importe qui à qui on parlait. Et les mobilisations, les revendications étaient les mêmes. C'était sur le pouvoir d'achat, c'était sur le vivre mieux, c'était sur le ras-le-bol. Mais disons, sur les profils, il y avait de tout.
Félicien Faury.
Oui, non, sur les Gilets jaunes, ça me paraît intéressant, ça permet de compléter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'activation politique de certains affects, de certaines préoccupations et non d'autres. Et ce qu'on voit avec les jaunes quand même dans l'ensemble, c'est que ça a été une mobilisation des groupes populaires, mais qui ne s'est pas fait qui ne s'est pas construite, en tout cas pas uniquement et pas fondamentalement, sur les types d'affects racistes qu'on décrivait tout à l'heure. Et donc, c'est les personnes qui ont mis un gilet jaune et qui se sont mobilisées pour le pouvoir d'achat. La question de l'immigration, bon, peut-être a été trop peu traitée justement, mais en tout cas n'était pas mise en avant. Donc ça, c'est un point qui me paraît important pour justement ne pas essentialiser les groupes populaires, notamment, qui pourraient être tentés par le vote RN.
C'est pour ça, sans doute, que le Rassemblement national n'a pas pu, peut-être n'a pas véritablement cherché à récupérer, au fond, ces mobilisations des Gilets jaunes, Valérie Borst. Cette dimension raciste, vous l'avez rencontrée quand vous avez fait des reportages sur les ronds-points ou dans les manifestations de Gilets jaunes?
Alors oui, parce que le sujet se décline et il faut rappeler que les Gilets jaunes ont fait une dizaine d'actes. Il faut savoir qu'on était tous les samedis presque au rendez-vous en manifestation. Donc pour élargir la vision des Gilets jaunes et leur donner la parole, c'est vrai qu'on donnait la parole librement et qu'arrivait ce moment où il était question d'insécurité, d'immigration, de racisme. Mais très rapidement, ça revenait sur l'essentiel, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, sur l'essence trop chère, sur comment se nourrir, comment manger des légumes, sur des choses de la vie de tous les jours. Et le racisme, vraiment en retrait. Je dirais que c'était pas leur parole première.
Félicien Faury, toujours pour rester sur le racisme, comment vous expliquez le déni, au fond, de l'importance de cette question? On peut voir peut-être des aspects tactiques de la part des partis politiques, mais il n'y a pas de raison de les trouver du côté de la recherche.
Ah, je pense qu'il y a des intentions louables. Enfin, il y a des préventions qui doivent pas être prises à la légère. C'est-à-dire que c'est vrai que, étant donné le recrutement majoritairement populaire encore pour l'instant du Rassemblement National, et étant donné surtout, et ça c'est un point fondamental, qu'on associe le racisme encore dans le sens commun à l'archaïsme, la bêtise, quelque chose d'arriéré, l'ignorance en fait, étant donné qu'on a cette définition de sens commun du racisme, la rattacher au groupe populaire, eh ben c'est remettre une pièce dans la machine à la disqualification de ce mauvais peuple dont parlait Annie Colovald. Donc je comprends pourquoi beaucoup de personnes sont tentées en fait de ne pas mettre en avant cette dimension. Mais je pense que par contre
mais c'est quand même s'empêcher de comprendre un rouage absolument essentiel.
Et exactement, et moi je pense que voilà, il y a un enjeu de lucidité quand même qui est très important, et effectivement de compréhension tout simplement analytique de ce vote. Et je pense qu'on peut sortir de l'écueil que j'ai présenté tout à l'heure, justement en insistant sur ce caractère multiforme et transversal du fait social raciste. C'est-à-dire pour ne pas penser que l'électorat du RN est le monopole du racisme, mais qu'en fait il y a plusieurs formes et que donc il faut ni immuniser les classes populaires de cette relation de pouvoir-là, mais pas non plus penser qu'il en a le monopole.
Valérie Borst, j'imagine qu'en écoutant Félicien Faury depuis le début de l'émission, vous vous êtes dit qu'il y avait beaucoup de pieds sur terre possibles.
C'est vrai. Et ce que j'apprécie beaucoup dans sa démarche, c'est le côté terrain. Et ça me donne envie d'aller dans le sud-est.
Merci. Très belle région.
Merci beaucoup, Valérie Borst. Je rappelle donc ce podcast diffusé la semaine dernière sur l'antenne de France Culture. On le trouve très facilement sur le site de la chaîne, sur la page des Pieds sur Terre. Et puis, Félicien Faury, des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite. Le livre paraît au Seuil. On trouve les références aussi bien du livre que du podcast sur la page de cette émission. De la suite dans les idées, vous pouvez réécouter cet épisode et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata à la technique, aujourd'hui Jean-Guilain Meige à la réalisation, Anne-Laure Chanel.